Avant de répondre à votre question que je garde pour la bonne bouche, c'est-à-dire pour la conclusion, je dis mon accord en grande partie avec ce qui vient d'être dit par mes collègues, et en particulier ce que vous venez de dire les uns et les autres sur l'indifférence. Mais Mme Bechtel a très justement remarqué que nous n'avions pas défini le concept de laïcité. Alors, je ne sais même pas si c'est un concept définissable en toute rigueur. Mais enfin, généralement, les philosophes et les hommes politiques, et bien entendu les juristes, essayent de définir ce dont ils parlent. Je voudrais quand même faire quelques remarques d'ordre historique et en même temps d'ordre sémantique. Ce qui me gêne dans l'affaire de la laïcité, c'est qu'on parle, que l'on soit d'accord ou pas, pour la première forme de laïcité, la deuxième forme de laïcité, la laïcité, l'anti-laïcité, enfin, dès que l'on parle de ces questions, on parle de la laïcité comme si la chose allait de soi, comme disent les philosophes, comme si c'était une hypostase, c'est-à-dire une sorte de substance qui serait au-dessus de nous, comme une sorte de nuage d'inconnaissance, comme dit un auteur du Moyen-Âge, ou de connaissance, comme on voudra, et à l'ombre duquel nous serions. Mais il faut bien comprendre que cette laïcité n'a pas toujours existé, n'existera peut-être pas toujours, et qu'elle a été formée historiquement et aussi sémantiquement. Alors je voudrais rappeler rapidement des choses qui sont connues, mais simplement pour cadrer le problème. Le terme de laïcité a une double origine, si je puis dire, et donc la laïcité elle-même a une double origine, à la fois sémantique et historique, d'une part grecque, d'autre part chrétienne. Je ne distingue pas ici entre le catholicisme et le protestantisme. Grec, puisque laïcité vient de laïkos, qui signifie qui concerne le peuple. Le peuple, pas exactement, car le terme de peuple en grec, c'est démos, qui a donné démocratia, comme chacun sait. C'est-à-dire que démos, c'est le peuple assemblé, c'est le peuple constitué selon des lois. C'est le peuple légal, et à ce titre légitime pour les Grecs. Kleros, laïkos, pardon, est un terme beaucoup plus général qui désigne le peuple en général, la foule en général, un groupement d'hommes en général, qui ne sont pas nécessairement organisés dans une cité. Et ce terme qui était utilisé par les Grecs pour désigner un grand nombre de personnes, une foule, une armée en déplacement, dans ce cas-là on ne dit pas démos, ça n'aurait pas de sens juridiquement ou philosophiquement, a été repris par les premiers chrétiens au 1er ou au 2e siècle après Jésus-Christ pour désigner un espace absolument différent de l'espace clérical. Et de nouveau, allusion à la sémantique, les premiers chrétiens qui connaissaient le grec évidemment, et pas simplement le latin, ont utilisé le terme de kleros qui désigne un partage, qui désigne un lot très exactement. Et c'était évidemment le lot qui était réservé à l'Église, le lot autour de l'Église, par exemple le cimetière, ou tous les territoires ou terrains avoisinant le cimetière ou l'Église ou la cathédrale, et qui appartenaient de ce fait juridiquement, et pas simplement spirituellement, à l'Église chrétienne de l'époque. Il n'y avait pas encore eu de séparation du christianisme et du protestantisme. Et donc, il existait deux espaces, j'entends au sens quasiment géométrique du terme, entre l'espace clérical, qui était un espace réservé aux clercs, comme leur nom l'indique, à partir d'un mot qui n'est pas chrétien mais qui est grec, kleros, et l'espace laïque, qui était l'espace en dehors de l'espace clérical. Ces deux espaces ont parfaitement coexisté. D'une certaine manière, cette présence des deux espaces se retrouvait aussi déjà un peu plus tôt chez les Grecs, puisque, de la même manière que l'espace clérical, dont je vais dire un mot dans un instant, s'est formé progressivement sur le plan historique, l'espace pré-clérical, en quelque sorte, pré-laïque, pardon, chez les Grecs, s'est développé avec l'institution de l'agora. L'agora, là non plus, puisque tout le monde parle d'agora, encore aujourd'hui, même si nous ne sommes plus dans la civilisation grecque ancienne, lorsque nous parlons d'agora, c'est-à-dire d'un espace public où tous les échanges peuvent être faits, les échanges économiques, les échanges politiques et les échanges verbaux, c'est-à-dire les échanges personnels, dans une sorte d'aller-retour incessant du dialogue, dont les philosophes feront plus tard avec Platon et Socrate la dialectique, cet espace s'est constitué pendant plusieurs siècles, comme l'ont montré Jean-Pierre Vernant et d'autres auteurs bien connus de la pensée grecque. Et cet espace s'est constitué là aussi en rupture ou en écart avec un espace religieux. Pour reprendre les thèses de Vernant, très très rapidement dit, l'espace que l'on n'appelle pas encore laïque chez les Grecs, bien que le mot de laïkos soit un mot grec, l'espace, disons, de la représentation démocratique, c'est l'espace de l'agora, où toutes les choses se discutent et se décident, avec la boulée, avec d'autres institutions juridiques, on n'entrera pas dans les détails, tandis qu'évidemment l'espace de l'acropole, Acropolis, la ville haute, est un espace religieux tout à fait différent. Ça n'empêche pas évidemment ces deux espaces de se recouvrir parfois. On oublie par exemple très souvent que l'hôtel des 12 dieux, dont vous retrouverez encore les ruines aujourd'hui en allant à Athènes, se trouvait sur l'Agora et non pas sur l'acropole. Et c'était l'hôtel des 12 dieux précis, fondamentaux du Parthénon, y compris de Zeus ou d'Athéna. Donc les deux espaces sont nés chez les Grecs d'un côté, en gros 4e siècle avant Jésus-Christ, chez les chrétiens de l'autre, par substitution d'un espace à un autre, par glissement d'un espace religieux à un espace laïque. Là où cela fait problème, c'est lorsqu'on se demande quelle est la nature de cet espace laïque, ou déjà, mais je laisse de côté maintenant la Grèce, l'espace de l'agora. Qu'est-ce qui se passe finalement dans ce type d'espace? Pour autant que l'on puisse le comprendre, et en dehors du fait que cet espace laïque est aussi, comme l'a dit Jean Bobéro justement, est un espace de type démocratique, puisqu'il y a tout simplement une parole échangée et donc des actes, des praxis, des praxeis qui peuvent être échangés, le problème c'est de savoir quel est le contenu de cet espace. Or la thèse que je défends, qui va peut-être être contestée tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de contenu de l'espace laïque. Ou pour dire différemment les choses, la laïcité n'est pas substantielle. La laïcité est fondamentalement formelle et procédurale. Elle n'a aucun contenu. Ce qui le montrerait d'ailleurs, si on voulait faire un peu d'ironie facile, c'est qu'il n'existe pas de temple laïque. Alors qu'il existe des temples, il existe des églises, des mosquées, etc. Mais un temple laïque, ou un bâtiment laïque, en dehors des bâtiments juridiques, évidemment, les mairies, et les hôtels de ville, etc., n'existent pas en tant que protecteur d'une pensée laïque en tant que telle. Qu'est-ce que c'est que la laïcité? Fondamentalement, je la comparerais assez volontiers à une scène de théâtre. Une scène de théâtre vide, comme toute scène, avant que la représentation ne commence, mais où toutes les représentations peuvent se tenir, c'est-à-dire toutes les pièces peuvent se jouer, aussi bien des comédies que des drames, aussi bien des drames révolutionnaires que des drames conservateurs. C'est-à-dire que n'importe qui peut pouvoir venir, comme dans une sorte de comédia dell'arte généralisée, dans l'espace laïque. Mais est-ce que cet espace laïque peut lui-même se mettre en scène? Autrement dit, est-ce qu'il peut être occupé uniquement par la laïcité? Je réponds non, parce que ça réfère de la laïcité, non plus une laïcité ouverte, comme ça a été dit, mais une laïcité non seulement fermée, mais en soi, comme aurait dit Sartre, complètement occultée sur elle-même, puisqu'elle serait à la fois le juge et la partie de la possibilité d'échanger des idées, des croyances, des pensées et des actions. Personnellement, et c'est là que je vais répondre à la question qui m'a été posée, personnellement, je serais radicalement défenseur de la laïcité, mais au sens, je ne dirais même pas d'une laïcité ouverte, comme il a été dit tout à l'heure, parce que ça me paraît faire un pléonasme. La laïcité, par définition, ne peut être couverte. C'est un temple, c'est une église, c'est une mosquée qui sont fermées. Non pas fermées dans un sens négatif, mais dans le sens où elle constitue un univers ou un espace de représentation symbolique ou de représentation religieuse qui ne renvoie d'une certaine manière qu'à elle-même. C'est d'ailleurs un type d'espace de ce genre qu'est l'université, puisque je suis universitaire. N'importe qui ne peut pas rentrer à la Sorbonne ou ne peut pas rentrer à l'université d'Aix-en-Provence ou de Strasbourg. Il faut quand même un minimum de garantie que l'on puisse rentrer et que l'on puisse échanger des idées et que l'on puisse parler et que l'on puisse donc défendre des connaissances. Il me semble que la laïcité dite ouverte ne peut être couverte car une laïcité fermée, c'est-à-dire qui serait sa propre auto-représentation, ne me paraît pas valide pour une raison simple, non seulement pour la raison formelle que je viens de dire, à savoir que la laïcité, c'est l'ouverture à d'autres types de croyances et de représentations, à condition bien entendu qu'elle n'enfreigne pas la loi. Là, c'est un problème strictement juridique, ce n'est plus un problème philosophique ou ce n'est plus un problème religieux. Et d'autre part, surtout, tout simplement parce que je ne vois pas quel pourrait être le contenu d'une pensée laïque. Je dis bien le contenu, au sens d'un contenu substantiel. Je vois bien comment des procédures de laïcité peuvent permettre à toutes les conceptions du monde, et donc à toutes les conceptions religieuses, sauf celles évidemment qui ne suivent pas la loi, de s'exprimer et d'échanger librement leurs discours, que ce soit d'ailleurs des discours qui viennent du plus profond d'entre nous, si nous avons des croyances en une transcendance, comme ça a été dit tout à l'heure, ou que ce soit tout simplement une sorte d'échange qui n'irait pas jusqu'à la religion laïque dont on a parlé tout à l'heure, ou à la religion dont parlait Jean-Jacques Rousseau à la fin du contrat social, mais il me semble que pour que cette laïcité véritablement ait un sens, il faut qu'elle donne la parole à tous les autres. Alors, est-ce que, un petit peu comme à cette table, est-ce qu'un président de séance peut prendre la parole à la place de ceux qu'il présente ? Le président de séance ne peut être que laïque, me semble-t-il. Et ce qui me semble être la caractéristique et la grandeur de la laïcité, c'est qu'elle donne la parole à tout le monde, sauf encore une fois ceux qui vont contredire la loi, sans pouvoir la prendre. Car au fond, et ça c'est la question que je vais poser, qui est peut-être une question un petit peu intempestive, qu'est-ce qu'a à dire la laïcité ? En dehors du fait que la laïcité donne la parole à toutes les formes de représentation symbolique, religieuse, morale, culturelle, quelle qu'elle soit et quelle que soit leur origine. Mais si l'espace public dont parlait Locke pour la première fois est uniquement rempli d'un discours de contestation ou de défense de la laïcité, je ne sache pas que cela puisse résoudre les problèmes humains, les problèmes moraux, les problèmes politiques qui sont les nôtres. Il me semble que l'homme a besoin, et les sociétés tout aussi bien qui sont constituées d'hommes, ont besoin de réalités plus substantielles, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient politiques, qu'elles soient artistiques, qu'elles soient symboliques, qu'elles soient sexuelles pour certains ou amoureuses, enfin, quel que soit le type de réalité substantielle que nous allons vivre charnellement et spirituellement, et ne pas uniquement se braquer sur des conceptions qui me paraissent finalement stériles, comme me paraît stérile, même si historiquement elle est réalisée, l'opposition terme à terme entre la laïcité et la religion, entre l'instituteur et le curé, entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui n'y croient plus. Il me semble que ces oppositions, non seulement n'ont plus de sens aujourd'hui, d'où le fait qu'il y ait une possibilité d'évolution de la loi de 1905 ou de toutes les réflexions sur la laïcité, mais n'ont même pas eu de sens à l'époque, je veux dire par là. Il me semble qu'il y a une possibilité quand même à l'intérieur d'un espace, et je termine là-dessus, laïque, c'est-à-dire d'un espace d'ouverture où toutes les pensées et où toutes les croyances peuvent s'échanger, il me semble qu'il y a une possibilité de discussion entre les athées et les croyants, entre les croyants de telle croyance et les croyants de telle autre religion, sans que pour autant il y ait cette sorte de blocage à la fois épistémologique et éthique qui fait que chacun reste sur des positions qui sont en quelque sorte des positions défensives et non pas des positions ouvertes.
Merci beaucoup.